Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'interroger Jean Bobéro sur son dernier opus de la trilogie sur la loi 1905, intitulée La loi de 1905 n'aura pas lieu. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de l'interroger, étant parfaitement néophyte sur ces questions et n'étant absolument ni 19e-iste, ni historienne, ni sociologue.
Un philosophe, quand même.
Philosophe, oui, mais bon. Mais je suis néanmoins ravie de le faire, d'autant que j'ai quand même quelques petites idées, puisque nous avons travaillé ensemble, et notamment Jean a signé l'un des opus d'une collection que nous dirigeons, Sophie Nordman et moi-même, Sophie qui est ici présente, qui s'appelle La Disputatio, et Jean a bataillé avec Nathalie Héniche sur la question de la laïcité. Alors, c'est très original, n'est-ce pas? C'est très étonnant, et donc c'est à nouveau sur cette question que nous allons parler, mais cette fois de manière très érudite, beaucoup plus érudite que dans la disputatio. Et nous allons revenir finalement sur, non seulement sur le livre, mais peut-être un peu plus loin, sur l'ensemble de ton travail, Jean, puisqu'il vient clore des années, de nombreuses années de recherche, d'écriture. De découverte de textes. Alors peut-être pour arriver à ce troisième volume, serait-il nécessaire et judicieux de rappeler ce dont il est question dans les deux premiers volumes. Donc je vais te laisser voilà, la possibilité de faire ce petit rappel pour entrer de plein pied dans ce dernier opus.
Oui, donc effectivement, alors, il faut être bien clair, c'est-à-dire que je ne suis pas le premier à parler de la loi de 1905, loin s'en faut. Bon. Et il y a eu ce qu'on appelle un renouveau historiographique qui s'est produit, disons, entre 1959 et 1974. Puis après, il y a eu le centenaire de la loi en 2005, où il y a eu de nombreux colloques, des études, etc. Et bon, il y a des travaux aussi qui ont eu lieu au moment même où moi je rédigeais mes trois volumes. Bon. Mais quand donc j'ai pris cette décision d'écrire ces trois tomes et que la MSH m'a suivi dans ce projet, pour moi, il était clair qu'à la fois je bénéficiais du savoir qui était déjà là, bon, mais je ne l'aurais pas lancé dans cette entreprise si j'avais été totalement satisfait de ce savoir. J'estimais qu'il y avait quand même des trous dans la raquette et j'estimais qu'il y avait des pièces du puzzle qu'on forçait un peu trop à s'emboîter. Bon. Alors, pour dire les choses très, très rapidement, le renouveau historiographique, on peut le caractériser en disant que les légendes, aussi bien la légende noire catholique que la légende dorée républicaine, avaient fait d'Émile Combes, petit père Combes, le père de la loi de séparation. Et le renouveau historiographique, focalisé au contraire sur Aristide Briand, faisant d'Aristide Briand l'architecte de la loi. Bon, alors ce n'était pas seulement une affaire de changement de personne, c'était aussi dire que la loi n'était pas une loi d'anticléricalisme d'État, comme l'étaient les mesures prises sous le ministère d'Émile Combes, mais que c'était une loi de la philosophie politique libérale. Et c'est en ça d'ailleurs qu'une philosophe est précieuse, parce qu'il y a une philosophie politique de la loi de 1905. Bon. Et donc, il y avait cette divergence. Bon. Mais ce qu'on pouvait remarquer, puisque moi je suis à la fois un peu historien et un peu sociologue, au niveau sociologique, ce qu'on pouvait remarquer, c'est qu'il y avait pas mal de résistance au niveau social à cette nouvelle manière de voir les choses, et avec des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire que tel auteur disait Combes est le père spirituel de la loi que Briand a mis en œuvre, etc. Bon. Et celui qui, enfin, une figure typique de cette résistance, a été Nicolas Sarkozy quand il a été président de la République, puisque lui, il a dit « la loi de 1905 est libérale a posteriori, après coup ». Bon. Et quand moi, j'ai essayé de dire bah « non, elle était libérale dès 1905 », sa plume m'a rétorqué « mais attendez, c'est la même majorité, c'est ce qu'on appelait le bloc des gauches, qui a pris les mesures d'anticléricalisme d'État sous Combe et qui a voté la loi de 1905 ». Et alors, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose qui était le fait qu'effectivement, peut-être, on n'expliquait pas assez pourquoi et comment il y avait eu cette rupture avec l'anticléricalisme d'État. Bon. Et donc, mon premier tome, ça a été d'essayer d'expliquer le pourquoi et le comment. Bon, alors, je vais pas retracer tout, mais je voudrais quand même... dans les différentes raisons qui m'ont semblé importantes, en citer deux qui me semblent avoir été assez oubliées par l'historiographie. Bon, la première, c'est qu'il y avait plus d'opposition qu'il n'y semblait, si vous voulez, au sein de ce bloc des gauches, de cette union des gauches. Il y avait des gens ils étaient tous anticléricaux, mais il y avait des anticléricaux libéraux, on pourrait dire, hein, philosophiquement libéraux, et il y avait des anticléricaux qu'on pourrait appeler intégralistes, intransigeants si vous voulez, mais je préfère le terme intégraliste qui est moins connoté. Et ils s'étaient déjà empaillés, je dirais, en 1903, à propos de ce qu'on appelle le monopole, c'est-à-dire la tentative de rendre l'école laïque obligatoire en établissant le monopole de l'État sur l'enseignement. Et déjà à ce moment-là, les intégralistes, si vous voulez, les laïcs intégralistes, avaient perdu et déjà étaient montés au créneau. Ferdinand Buisson, l'adjoint de Jules Ferry au niveau des lois scolaires, Georges Clémenceau, on disait qu'il était un groupe parlementaire à lui tout seul, etc. Bon. Et déjà, les gens philosophiquement libéraux avaient gagné. Bon. Donc, ce premier combat était très important à rappeler parce qu'il a été oublié. Et puis, alors, une seconde raison que je voudrais indiquer très rapidement, c'est un changement de contexte au niveau international. En 1903, l'horizon est à la paix et la France a repris son rang et elle a un jeu d'alliance qui fait qu'on peut se disputer entre Français, c'est pas dangereux sur le plan international. Alors qu'en 1904 éclate la guerre russo-japonaise, que c'est une guerre là aussi bien oubliée et pourtant qui a vraiment frappé les gens à l'époque, c'est vraiment la répétition de la Première Guerre mondiale, et on craint que cette guerre s'étende, que la France soit impliquée, etc. Et du coup, ça devient beaucoup plus difficile qu'il y ait un combat frontal entre Français. Il faut soit reculer la séparation, soit ça aide les libéraux à dire qu'il faut que la séparation ne soit pas trop conflictuelle avec l'Église catholique. Donc voilà les deux raisons du pourquoi. Bon, et le comment aussi, il y a pas mal de choses, mais enfin, je vais juste en dire une, qui est le fait que Combe a effectivement fait du combisme, on ne peut pas lui reprocher. Il a déposé un projet de loi qui était en fait un projet de surveillance étroite de l'Église par l'État. Bon. Mais l'Association nationale des libres penseurs de France a désavoué ce projet. Et ça aussi, personne, aucun historien n'en parle. Or, c'est quand même un fait majeur, si vous voulez, dans cette rupture. Bon. Donc voilà, le premier tome, c'est expliquer pourquoi, en fait, s'il y a une rupture et qu'on ne raconte plus que la loi de séparation, c'est le couronnement de l'anticléricalisme d'État ou le couronnement du combisme, etc., etc. Non. Mettre un bon coup de pied dans la fourmilière de cette légende à la fois noire pour les catholiques et dorée pour les républicains. Et le second tome, alors je vais être plus rapide, mais c'est, si vous voulez, l'ouvrage qui a fait référence et qui fait référence, c'est un ouvrage écrit par Jean-Marie Mayer en 1966. Et c'est là où je parle de trou dans la raquette, parce que cet ouvrage, c'est un petit ouvrage, il a moins de 200 pages, et il veut faire vite, et puis, à mon avis, il y a une stratégie derrière, quand même. Il s'arrête dans les débats parlementaires à l'article 8, or la loi a 44 articles. Il ne parle pas du tout des autres articles. Or, dans ces autres articles, il y a la dévolution gratuite des églises propriété publique. Et si vous interrogez un maire d'une petite commune aujourd'hui, c'est un problème qui est important pour lui, cette dévolution gratuite d'églises. Il ne parle pas du coup de tous les débats sur le rôle de la religion dans l'espace public. Et comme vous le savez, c'est une question vraiment qui taraude la classe politique, la laïcité, les enseignants, etc. depuis maintenant un certain temps. Et il ne parle pas du tout de la police des cultes, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne croient, qui pensent qu'il n'y a pas de police des cultes dans la loi de 1905. Et là aussi, les débats sur la police des cultes ont été importants ces années. Bon. Donc voilà, il y avait vraiment à réactualiser pour essayer de faire le point aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'en lisant le livre, on a une leçon de politique, c'est même extraordinaire. On y reviendra hein, sur les radicalisations des uns, le fait que d'autres arrivent à mettre de l'eau dans leur vin pour changer de position et pour la faire advenir, cette loi. Bon, on arrivera au détail, mais pour le moment, je voudrais évoquer cette méthodologie que vous utilisez, qui est à la fois très amusante et très intéressante, alors là, pour le coup, philosophiquement, qui est l'histoire contrefactuelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Alors, à un moment, on se dit, mais il connaît tellement par cœur, mais chaque seconde qui se sont passées dans cette année 1905, qui s'ennuie et qu'il a envie d'inventer ce qui serait passé si. Mais il y a quand même une vertu heuristique dans l'histoire, évidemment, contrefactuelle, ceci. Alors, pourquoi avoir utilisé cette méthode ? En tout cas, à certains endroits de votre ouvrage. Hein, c'est pas tout l'ouvrage, évidemment, n'est pas construit sur de l'histoire contrefactuelle.
En général, à la fin du chapitre, il y a effectivement ce qui serait passé si. Alors, l'histoire contrefactuelle, c'est, hein, c'est on change un événement, hein, et puis on voit si, tout le reste change ou pas. Il y a des fois où ça marche pas, c'est-à-dire on peut changer un événement, la force des autres événements est telle que ça change pas l'ensemble. Bon, ce qui montre qu'il y a des déterminations. Mais justement, le fait que des fois ça marche bien montre qu'il n'y a pas de déterminisme. Et déjà, ça, c'est une option philosophique, effectivement, de dire qu'il n'y a pas de déterminisme historique et que l'histoire se construit par l'interaction des différents acteurs. Bon. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai, comme archive privilégiée, j'ai pris la presse. Bon, alors, pour des raisons aussi personnelles, j'étais arrivé chez moi. Bon, heureusement, j'ai eu l'aide de Dora Mameri, qui est là, qui m'a aidé, qui a rédigé les passages sur l'Algérie et qui est allée aussi dans les archives nationales, parce qu'il y avait quand même besoin de les consulter. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la presse. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que de s'apercevoir que, justement, à différents moments clés, les éditorialistes envisagent un avenir différent de ce qui a eu lieu. Et donc, ça, à mon avis, ça rendait valable le fait de dire, ben voilà, l'avenir plausible, c'était ça, c'est pas ce qui est arrivé, c'était autre chose. Alors, je voudrais d'ailleurs faire vous montrer ça. Oui, voilà. Très rapidement, selon la loi, ben, il y avait des établissements publics du culte hein, qui étaient liés à l'État et liés à la commune. Bon, comme il y avait la séparation, ils ne pouvaient plus avoir d'établissements publics du culte liés à l'État et à la commune. Et au bout d'un an, ils devaient avoir des associations cultuelles qui, donc, séparées de l'État, assuraient l'exercice des différents cultes. Bon. Et l'échéance était le 11 décembre 1906, c'est-à-dire un an après la publication au journal officiel de la loi du 9 décembre 1905. Et le 11 décembre 1906, suite à deux refus du pape, on reviendra peut-être là-dessus, mais suite à deux refus du pape, il n'y a pas d'association cultuelle catholique romaine. Bon. Et les journaux se disent « qu'est-ce qui va se passer ?» Bon. L'Univers, qui est un journal catholique, dit « la situation est inextricable et nous ne pouvons nous en sortir que par le ridicule ou par l'odieux ». Le ridicule, c'est finalement de renoncer à la loi de 1905, et l'odieux, c'est de faire violence sur l'Église catholique. L'écho de Paris, qui est une droite modérée, lui, voilà ce qu'il écrit. La guerre religieuse est devenue inévitable, l'Église verra les masses populaires lui échapper pour longtemps, et l'État sera affaibli par le désaccord des citoyens. C'est avec effroi que tous les Français envisagent un avenir aussi chargé d'inquiétude. Tous les usages, toutes les traditions de notre pays sont menacés d'un bouleversement dont on ne peut prévoir les profondes conséquences. Que sera demain? Comment les catholiques pourront-ils accomplir leurs devoirs religieux? Les églises seront-elles fermées? Comment se marieront-on? En quoi consisteront les obsèques? Et le Figaro, bon, qui était déjà un journal plutôt conservateur, écrit « Le gouvernement va être inévitablement acculé à la violence. Il faudrait fermer les yeux à l'évidence pour conserver le moindre doute à cet égard. Bon. » Or, les églises n'ont pas été fermées. Et maintenant, on fait comme si c'était un peu normal que finalement les églises n'ont pas été fermées. Et moi, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'a fait Briand et qu'est-ce qu'a fait Clémenceau, qui était président du Conseil? Ils ont construit du non-événement, puisque les églises n'ont pas été fermées. Ben, ce n'est pas médiatique, le non-événement, mais c'est capital et c'est un construit, ce n'est pas donné, ce n'est pas naturel, c'est un construit politique, un construit social. Bon. Et je me suis posé la question, et si ce n'était pas ça une des tâches principales du politique, de construire du non-événement, c'est-à-dire d'assurer la survie paisible des gens, et puis aux gens après de construire leur vie, de réaliser leur vie. Mais voilà, le politique leur assurant cette survie paisible. Bon. Et donc, je pense que le fait d'imaginer l'histoire avec des si, ou plus exactement de relire ce que les gens ont craint ou espéré, bon, ça permet de désessentialiser l'histoire. Bon. Alors, en plus, si effectivement les églises avaient été fermées, s'il y avait eu la guerre religieuse que, vous voyez, le Figaro estime inéluctable, bon, en 1914, il n'y aurait pas eu l'Union sacrée. La donne de la Première Guerre mondiale aurait été complètement changée. Donc l'histoire du monde aurait été changée. Bon, donc ça donne aussi un peu le vertige d'imaginer d'autres histoires possibles. Bon. Mais ça montre bien que ce qui est arrivé n'était pas inscrit d'avance, encore une fois, qu'il n'y a pas de déterminisme, et que c'est à chaque fois une construction du politique, et comme tu l'as dit, hein, je ne sais pas si toi, c'est important de voir à quel point, là, il y a eu un art du politique. Et c'est peut-être une leçon pour aujourd'hui.
Absolument, et puis ça permet d'échapper à tout biais rétrospectif, ce qui est un petit peu la tentation des lectures d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est une loi tellement encore politique. Enfin, peut-être qu'on en parlera, hein, y compris dans la discussion, mais effectivement, on est encore dans des positionnements politiques qui utilisent cette loi, et donc le fait de mettre à distance toute forme de biais rétrospectif par l'histoire contrefactuelle était vraiment, vraiment intéressante. Et puis il y a un autre aspect, juste je le souligne, mais parce que je trouve que c'est amusant, c'est l'introduction du jeu dans la méthode de l'historien. Mettre du jeu, créer du jeu, et voire inscrire un aspect même ludique dans la méthode, je trouve que c'est assez réjouissant. Peut-être un mot sur le jeu.
Oui, j'ai eu d'ailleurs, après le second tome, un compte-rendu sanglant d'une jeune historienne, parce que j'avais cité Starmania, j'avais cité Alain Souchon, j'avais cité les Rolling Stones, et elle trouvait que c'était vraiment pas sérieux. Or, par exemple, j'avais cité Starmania, « Au bout du compte, on est seul au monde », pour parler de la séance, justement, où l'Assemblée a voté la loi, où effectivement, personne à gauche ne défend Briand. Briand est vraiment tout seul pour défendre sa loi. Et je trouvais que la citation de Starmania s'appliquait bien, parce qu'il tient la loi tout seul à ce moment-là. Elle est votée par la gauche, Mais toutes les interventions de la gauche sont très très critiques à l'égard de la loi, à tel point, d'ailleurs, c'est justement, c'est quand même amusant, c'est que l'opposition de droite jubilant demande l'affichage du discours le plus critique sur la loi fait par quelqu'un de gauche. Et du coup, le gars, qui s'appelle Jean Bettemal, il doit ferrailler contre l'affichage de son propre discours. Voilà, il y a des paradoxes comme ça qu'une histoire raisonnable, disons, tend à évacuer et qui est pour moi l'aspect peut-être le plus intéressant parce qu'on met le doigt sur justement à quel point il a fallu construire quelque chose qui n'était pas vraisemblable au départ, qui n'était pas plausible au départ.
Alors, vous avez évoqué les légendes contemporaines hein, autour de la loi 1905, on pourra en dire à nouveau un mot. Par exemple, et là aussi vous en avez fait mention, Combes a longtemps été perçu donc, comme le père de la loi. Et vous rappelez cette phrase de Jaurès qui d'ailleurs a une certaine responsabilité hein, dans cette légende, je le cite, « Ce sera dans l'histoire de l'évolution humaine l'honneur impérissable de Monsieur Combes d'avoir fait de la séparation des églises et de l'État l'article décisif de son programme gouvernemental. » Voilà. Alors, malgré les démentis successifs d'historiens et de juristes, la légende a quand même prospéré. Et alors, par exemple, l'historien américain Maurice Samuel, que vous citez également, et qui appelle la loi de 1905 « The Combes Law », hein, la loi de Combes. Or, vous écrivez que la loi de 1905 nécessitait au contraire que Combes perde le pouvoir. Alors, c'est intéressant, cette ironie de l'histoire, finalement. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer...
Alors, effectivement, c'est fascinant de voir la légende en train de se créer, de se développer, au moment même où les faits sont patents, où il est patent que ce n'est pas Combes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, et là encore... curieusement, aucun historien le dit, c'est que Combes essaye d'être élu à la commission sénatoriale sur la séparation. Évidemment, s'il avait été élu, sans doute, il l'aurait présidé. Et il est battu. Il est battu alors que le Sénat est majoritairement à gauche. Mais il y a des gens qui ont des choses plus pressées à faire et qui ne viennent pas. Et donc, il est battu. Il n'est même pas membre de la commission sénatoriale de la séparation. Et la phrase de Jaurès est très significative. On a l'impression qu'il est mis en avant symboliquement pour être mis au placard politiquement, si vous voulez. Alors, il est mis en avant symboliquement justement parce que, comme il symbolise l'anticléricalisme d'État, ça permet de masquer le fait qu'on fait beaucoup d'accommodements. Et de se raconter une histoire différente, de se raconter qu'on a vraiment gagné, etc., etc., alors qu'on fait plein d'accommodements. Bon. C'est aussi, pour évidemment les catholiques, dire que la loi, Combes est le père de cette loi, c'est délégitimer la loi. C'est évidemment, c'est du pain béni pour eux de pouvoir dire que c'est Combes l'auteur de la loi. Et puis, c'est aussi un épouvantail, c'est-à-dire de dire aux catholiques, soyez raisonnables, parce que si vous n'êtes pas raisonnables, Combes va revenir au pouvoir. Donc, voilà, donc il est mis en avant symboliquement, mais en fait, il est complètement out politiquement. Et donc, la légende se crée au moment même où il est clair que c'est pas lui, il n'a pas de rôle. Il écrit des articles contre d'ailleurs Briand, etc., etc., et qui font d'ailleurs rire le pape parce qu'il dit que le pape a raison de résister à la loi d'Aristide Briand. Bon, si vous voulez, cette légende est en train de s'installer et après. Évidemment, tout le monde a eu intérêt à mettre cette légende, c'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit, la légende noire, eh bien évidemment, pour elle, c'était Combes qui était le père de la loi, et donc la loi était persécutrice, Et la légende dorée, comme père de la loi, il symbolise l'anticléricalisme d'État, donc on a complètement gagné, etc. Bon. Et donc, voilà la force. Parce que Maurice Halvague, là, qui a beaucoup travaillé sur les mémoires, dit, suivant les groupes sociaux, les mémoires sont différentes. Eh bien là, avec des jugements de valeur évidemment opposés, les deux France ont eu toutes les deux intérêt, disons, à mettre Combes en avant et du coup à mettre un peu la figure de Briand derrière, comme s'il avait été un peu l'exécuteur de Combes. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour les catholiques qui refusaient la loi, Briand était plus dangereux que Combes. Il y a des écrits où on dit notre véritable adversaire, c'est Briand, parce que justement, il est beaucoup plus souple que Combes, et donc il a beaucoup plus de chances de gagner que Combes. Bon. Donc tout le monde a finalement intérêt à jouer la carte de Combes, alors que ça ne correspond pas à la réalité.
Alors, autre élément qui va alimenter la légende, l'énoncé, la République ne reconnaît aucun culte. Cet énoncé a pesé longtemps et encore aujourd'hui hein, sur la représentation sociale de la laïcité en France. En outre, nombreux sont ceux qui utilisent l'expression de séparation de l'Église et de l'État. Alors, qu'est-ce que change cette substitution du singulier au pluriel?
Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là encore, il a failli être écrit, La République ne reconnaît officiellement aucun culte. Tout le monde était d'accord sur cette formulation, et puis la discussion a continué, et puis on n'a pas mis le mot officiellement. Bon, déjà, c'est assez amusant qu'il y ait eu ce raté lourd de conséquences historiques. Bon. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ne reconnaît aucun. Enfin, certains d'entre vous qui sont ici le savent, mais bon, je l'explique quand même. Ça veut dire qu'on met fin au régime des cultes reconnus, puisqu'il y avait en fait quatre cultes reconnus, le culte catholique évidemment, deux cultes protestants, luthériens et réformés, et le culte israélite, le judaïsme. Bon. Donc on met fin au régime des cultes reconnus, et c'est pour ça qu'on écrit ne reconnaît aucun culte. C'est pas, ça ne veut pas dire que la République ne connaît aucun culte, ou qu'elle ignore les cultes, ou etc. etc. Bon. Et justement, le pluriel est très important, puisqu'il ne s'agit pas seulement du culte, de l'acte cultuel, mais des cultes, et Briand dit clairement que les cultes, comprend les manifestations extérieures sur ce qu'on appelle la voie publique à l'époque et qu'on appelle l'espace public aujourd'hui. Bon. Et donc, effectivement, si on parle dit la République ne reconnaît aucun culte et qu'on dit la séparation de l'Église et de l'État, ce qui implicitement nie le fait qu'il y avait plusieurs cultes reconnus et que c'est une expression technique qui signifie l'abolition de ces cultes reconnus, ces cultes officiels, bon, du coup, on n'y comprend rien et on croit que cela signifie que surtout cacher ces cultes que je ne saurais voir, quoi. Bon. Effectivement, là, il y a eu un truc qui a été loupé à un moment et ça a eu des conséquences complètement imprévisibles parce que, évidemment, quand même, en 1905, les gens savaient que c'est la signification de cette phrase. Et c'est après qu'on a oublié qu'il y avait des cultes reconnus, etc. On parle du concordat, il vaudrait mieux parler du régime des cultes reconnus. En Alsace-Moselle, actuellement, il y a toujours un régime de cultes reconnus, avec toujours quatre cultes reconnus.
Alors, on l'a dit, hein, c'est une leçon formidable de politique, comment des laïcs intransigeants deviennent conciliateurs, enfin voilà, comment les transactions, y compris avec ses propres positions, vont rendre possible l'adoption d'une loi. Alors, là-dessus, on a une leçon de politique très considérable dans le discours assez peu connu d'Aristide Briand que vous citez dans votre ouvrage, et je le cite à mon tour, c'est une phrase tout à fait magnifique. Il y a certaines victoires qu'il ne faut pas désirer excessives, ni souhaiter qu'elles soient si entières qu'elles laissent après elles des rancœurs, des tristesses qui peuvent se transformer en haine. Quelle belle leçon politique!
Oui. Alors oui, là aussi, curieusement, ce discours n'est pas cité, alors qu'à l'époque, il a fait l'unanimité. C'est-à-dire que Maurice Allard, qui est un socialiste révolutionnaire, dit c'est un très beau discours, et La Croix, qui est le journal catholique très très à droite à cette époque, qui dit brillant ami K.O. Clémenceau, et brillant est le futur président du Conseil, et La Croix s'en réjouit. Bon. Donc il est salué de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et effectivement, la ténacité de Briand, c'est d'avoir trié, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a une vision claire qu'il essaye tout le temps d'indiquer. Bon, Christophe Bellon, d'ailleurs, dans sa biographie de Briand, le montre bien aussi. La séparation, c'est quoi? C'est la liberté de conscience qui inclut le libre exercice des cultes. C'est la neutralité de l'État, c'est le fait qu'il n'y a plus de religion officielle, et c'est le fait que progressivement, puisqu'il y a des pensions et des allocations, mais progressivement, il ne va plus avoir de budget des cultes. Et puis pour tout le reste, finalement, on navigue à vue, suivant les opportunités, suivant les réactions, suivant etc., on peut s'accommoder, on peut changer, etc. Donc, c'est le fait de trier. C'est le fait d'avoir trié et d'avoir eu une vision claire, alors que les gens mettaient énormément de choses dans la séparation et beaucoup de choses. Il y a toute une discussion, d'ailleurs, amusante quand on... est importante dans le contexte d'aujourd'hui sur la soutane. Il y a eu aussi des débats sur ce qu'on appelle à l'époque les jupons laïcs, etc., etc. Bon. Pour Briand trie, et ça lui permet ce que Weber appelle l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire que en fonction du ressenti des catholiques, en fonction de l'évolution de la situation, etc., il va pouvoir lâcher un certain nombre de choses, être coulant sur le reste, bon, et entraîner donc des gauches qui renaclent. Mais quand même, ce que je remarque, c'est qu'au moment des votes, elles le votent. Elles votent... Il y a finalement 4 lois de séparation, au bout du compte. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 4. Et les 4 lois ont été votées par l'ensemble des gauches, même très critiques face à Briand. Et Maurice Allard, par exemple, a voté les 4 lois. Bon. Et donc, là aussi, à mon avis, on rejoint une question philosophique très intéressante. Et justement, c'est un peu aussi une des raisons du choix de la discutante, c'est, vous avez écrit un livre sur la philosophie du manque, et la loi de 1905 assume ce manque, assume le fait que la victoire ne soit pas si entière, qu'elle suscite des ressentiments et des haines. Et ça, c'est quand même une leçon politique formidable, parce que si la victoire est entière, elle écrase l'autre. Et donc, il n'y a pas de raison que la guerre s'arrête. L'autre, il n'a plus rien à perdre, on l'écrase. Bon, donc, il va continuer à tout faire pour se batailler. Bon, et c'est la guerre à toujours. Bon. Et la loi 1905 a été une victoire durable, un peu comme on parle de développement durable, parce qu'elle a été une victoire conciliatrice, parce qu'elle a été une victoire qui a fait la place à son adversaire, qui a fait la place à ce qu'on estimait être à l'époque son ennemi. Bon. Et donc, là aussi, il y a quand même une leçon. Si maintenant je recommençais mon travail, j'appellerais le bouquin « La loi de 1905 ou la laïcité victorieuse ». Parce que c'est ça aussi, c'est le récit comment on gagne. Comment on gagne, et on gagne par l'éthique de responsabilité, par le fait d'affronter les faits dérangeants, et par le fait de savoir trier entre de l'essentiel et puis des choses sur lesquelles on peut négocier, on peut s'accommoder.
Mais je trouve très intéressant d'ailleurs votre choix terminologique, puisque vous parlez de conciliation, mais pas de compromis. Et même, vous récusez ce terme de compromis.
Oui,
Pourquoi?
parce que, parce que le compromis, ça sera un match nul. Ça sera un match nul. Or, ce n'est pas un match nul. C'est la victoire du camp laïque, quand même. L'Église catholique ne voulait pas de la séparation. Elle ne voulait pas de la séparation. Et elle a essayé, alors justement, c'est les fameux refus du pape. Toute la stratégie de l'Église catholique, en tout cas du pape, parce que justement, comme il y a un conflit interne entre républicains, il y a un conflit interne entre catholiques, bon, qui est larvé parce que évidemment tout le monde dit qu'il obéit au pape, mais en fait, je montre bien qu'il y a des stratégies, même chez certains évêques, pour ne pas totalement lui obéir. Bon. Donc il y a ce conflit entre républicains, il y a ce conflit entre catholiques, etc. Mais le pape, lui, évidemment, il ne veut pas du tout de la séparation. Et il espère la faire échouer en forçant la séparation à être persécutrice. Et bon, c'est le titre du troisième livre, L'Église catholique, légale malgré elle, et c'est un mot d'ordre qui a couru dans les milieux libre-penseurs. On pensait que c'était Briand qui l'avait inventé, ce mot d'ordre. Non, et Briand le reprend, mais il circule dans les milieux libre-penseurs. Et donc, la victoire de la laïcité, c'est de contraindre l'Église catholique à la conciliation. C'est ça qui est très fort. Il y a bien une contrainte dans et donc il y a bien une victoire, mais c'est une contrainte. On va vous forcer à la conciliation, on va vous forcer à la liberté. Et d'ailleurs, il y a une phrase aussi de Jaurès qui est, à mon avis, assez extraordinaire et assez forte pour le présent, qui est de dire: on va imposer la liberté ni par la force ni par la ruse. Parce que par la force ou par la ruse, on n'arrivera jamais à faire entrer la liberté dans l'Église catholique. Donc il y a quand même une intelligence du politique de cette époque qui est quand même assez remarquable.
Quitte à favoriser parfois enfin, les prêtres non républicains au détriment des prêtres républicains.
Oui, alors ça, effectivement, alors la situation est compliquée parce que justement les combistes au départ jouaient les prêtres républicains contre la hiérarchie catholique. Bon. Et effectivement, ils sont un peu dans Marivaux, là, il y a toujours quelqu'un qui est un peu zibé dans l'affaire. Bon, et là, c'est effectivement les prêtres républicains. Ils accusent Briand d'avoir eu le comportement d'Agamemnon envers Iphigénie, c'est-à-dire qu'ils sont. Alors, attention, ils peuvent former des associations cultuelles, mais ils n'ont pas les églises. Ils n'ont pas les églises. Les églises reviennent aux prêtres qui n'obéissent pas à la loi, et qu'on rend légaux malgré eux. Et c'est ça quand même aussi le paradoxe de la séparation, c'est que quand deux prêtres se disputent l'Église, un qui fonde une association cultuelle, donc qui veut obéir à la loi, et un qui suit le pape et donc qui n'obéit pas à la loi, eh bien l'Église revient à celui qui n'obéit pas à la loi. Et s'il faut employer la force publique, eh bien Clémenceau emploie la force publique. Donc il y a effectivement un prix à payer dans cette victoire conciliatrice. Et ce prix à payer dans cette victoire conciliatrice, c'est que pour moi, la loi de 1905 arrive à mettre fin au conflit frontal des deux France, mais ne donne pas à la France un habitus pluraliste. Hein, n'arrive pas. Bon, alors. Chaque époque doit résoudre son problème et pas les problèmes de l'époque suivante ou les problèmes ad aeternam. Mais disons qu'il y a effectivement un manque au niveau du pluralisme. On veut inclure l'Église catholique dans la laïcité. Et pour pouvoir inclure l'Église catholique dans la laïcité, eh bien, on abandonne, on rase campagne les catholiques républicains qu'on avait montés en neige sous le combisme. Donc, ils sont un peu, effectivement, les dindons de la farce.
Alors, un petit mot quand même d'une étape extrêmement importante où là aussi on a pensé que la guerre civile allait advenir, c'est la crise des inventaires. Alors on fait un petit saut en arrière, mais oui, c'est quand même, oui. ça vaut la peine d'en décrire certains moments. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu effectivement, enfin bon, finalement il y a eu assez peu de morts, mais il y en a eu quelques-uns, très peu, oui. Mais trois très exactement. Oui. Mais on a pu imaginer que vraiment ça serait l'occasion d'une véritable guerre civile.
Oui, oui. Alors là, il faut donc rappeler la chronologie, c'est-à-dire que la crise des inventaires, c'est de fin janvier à début mars 1906, hein. C'est-à-dire c'est avant l'échéance dont on a parlé du 11 décembre 1906. Bon. Et alors, qu'est-ce que c'était les inventaires? Comme je vous l'ai dit, les établissements publics du culte devaient cesser d'exister le 11 décembre 1906, être remplacés par des associations cultuelles, et donc les biens des établissements publics du culte devait être transmis aux associations culturelles. Et ça, ça avait été un grand combat à la fois de Briand et de Buisson, parce qu'il y a des gens qui voulaient que les biens des établissements publics du culte reviennent à l'État et aux communes, en disant que c'est des biens publics, ils doivent revenir à la puissance publique. Et Briand et Buisson, d'accord sur ce point, avaient dit non, ces biens seront transmis aux associations culturelles. Bon. Donc, pour les transmettre, il fallait les inventorier. Bon. Et il va avoir, dans certaines églises, pas toutes, loin de là, mais pour certaines églises, des affrontements violents. Alors, des affrontements violents, pourquoi? D'abord, parce qu'à ce moment-là, justement, la gauche ne fait pas la promotion de la loi. La loi est assez technique, elle est libérale, mais il faut pouvoir lire le texte. Justement, la gauche a un peu honte de ce libéralisme. Pour une partie de la gauche, la loi qu'elle rêvait, c'était vraiment une loi qui écrase l'Église catholique, etc. Bon, donc, elle ne fait pas la promotion de la loi. Bon. En ne faisant pas la promotion de la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le champ libre aux autres. Et donc, alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on y est beaucoup plus sensible maintenant qu'il y a 60 ans. Les rumeurs, les fake news, etc., ça pullule. Ça pullule. On vous dit que les inventaires, c'est pour spolier, c'est pour s'accaparer les biens. On met des affiches à la porte des églises où on raconte ça. Bon. Alors, face à ça, la hiérarchie catholique, elle est gênée parce qu'elle ne veut pas que la loi s'applique avant que le pape dise s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Et les inventaires, c'est quand même le premier acte d'application de la loi. Bon. Donc, la hiérarchie catholique, elle ne veut pas, elle ne cherche pas la violence, mais elle donne prise au discours sur la spoliation. Elle dit que c'est peut-être les prémices d'une confiscation. Bon. Donc, elle légitime un peu ce discours jusque-boutiste, alors même qu'elle se dit qu'il faut faire gaffe, parce que si jamais le pape accepte la loi, il faudra contrer ce discours jusque-boutiste. Bon. Et enfin, le dernier point, c'est, là aussi, c'est très intéressant, à mon avis, l'importance du symbolique. C'est-à-dire qu'un certain nombre de catholiques de base, et notamment des paysans de la Haute-Loire, hein, ils revivent la Révolution. On s'est fait avoir à la Révolution, on a confisqué nos églises, on a mis des temples de la raison à la place, on les a transformés en granges où on a mis du foin, etc., etc. Cette fois, on ne va pas se laisser avoir, on va devancer la spoliation. Bon. Et comme ils ont eu ces fake news et ils les ont crues, eh bien, eux, ils sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour défendre leurs églises et les biens. Mais ils disent, on ne mourra pas sans avoir... Alors, la preuve qu'ils sont prêts jusqu'à la mort, c'est qu'avant d'aller à la castagne, ils se font remettre les derniers sacrements. Bon, hein, ça veut dire qu'effectivement, ils pensent qu'ils n'en reviendront pas forcément. Bon. Mais ils disent, on ne mourra pas sans tuer. Bon. Et là, c'est extraordinaire parce que justement, il y a plusieurs fois où on frôle la catastrophe et elle est déjouée in extremis. Bon. Et pour donner un exemple, on met les enfants des écoles libres en bouclier quand il y a la castagne. Bon. Vous voyez ce qui serait passé si jamais il y avait eu 10 à 20 gosses qui étaient morts. Bon, là aussi, ça aurait été une toute autre histoire qui serait advenue. Bon. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est que la fabrication de la loi elle-même signifiait un pouvoir législatif fort. Et ça, d'ailleurs, Bellon aussi le montre très bien. La crise des inventaires montre que l'application de la loi, si l'exécutif est faible, et là aussi je montre que l'exécutif a tergiversé, etc., ça ne marche pas. Et donc, en mars, on propose à Briand de devenir ministre du culte, et Briand Finot dit « j'y vais que si Clémenceau devient ministre de l'Intérieur ». Et effectivement, il va avoir un couple Clémenceau-Briand. Il ne faut pas focaliser sur le seul Briand. C'est le couple Clémenceau-Briand qui va gagner. Un exécutif fort, donc. Et Clémenceau est en train de passer du défenseur de Dreyfus au premier flic de France. Et ça aussi, c'est un peu, pour moi... La séparation que je rêverais, c'est une séparation où on pourrait uniquement se focaliser sur Briand. Mais ça serait vraiment idéaliser les choses. Clémenceau est là pour faire le ménage. Et c'est le couple qui gagne. C'est l'eau et le feu, si vous voulez, qui permet de gagner.
Alors, en effet, après la crise des inventaires et les élections législatives de 1906, où on peut s'attendre effectivement qu'à l'issue de cette crise, les soutiens de la loi ne passent pas. Et finalement, vous le montrez très bien, peut-être vous pouvez en dire un mot.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la campagne des législatives oblige la gauche à assumer la loi.
Voilà.
Enfin, elle assume la loi, enfin, elle devient briantiste, enfin, elle explique que la loi est libérale et elle explique pourquoi la loi est libérale et que les catholiques vont pouvoir tranquillement continuer à aller à la messe. Évidemment, les autres, du coup, qui occupaient le pavé et qui pouvaient répandre leurs fake news, sont un peu décontenancés. Ils essayent de contrecarrer, mais là, la justice commence à dire « Non, là, vous dites des calomnies et c'est punissable, on peut vous poursuivre par les tribunaux. Bon. » Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prévoyait, la droite l'espérait et la gauche le craignait, une perte de 50 sièges à gauche. Bon. Et en fait, les gauches en gagnent 60. Bon. Et donc c'est très important parce que l'Église catholique a revendiqué, c'est la grande thèse de Poulain d'ailleurs, l'Église catholique se pensait comme la nation face à l'État. L'État était laïque, républicain, il y avait la plupart des hommes politiques étaient libres penseurs, bon. Mais la nation, disait-on, était catholique. Alors, c'était à la fois vrai et faux. C'était vrai dans la mesure où les gens voulaient pouvoir bénéficier des rites de passage. Baptême des enfants, première communion, mariage et surtout enterrement. Il y a un humoriste qui disait que les Français sont des gens bizarres, ils sont détachés de la religion, mais ils ne se considéraient pas comme vraiment morts s'ils n'étaient pas enterrés religieusement. Bon. Et ça va plus loin qu'on dit, parce qu'effectivement, la mort à cette époque-là, c'est aussi le passage dans l'au-delà. Et si on n'est pas enterré religieusement, est-ce qu'on pourra avoir une bonne vie dans l'au-delà, hein? C'est pas sûr. Bon. Donc effectivement, il y a ce système d'emprise catholique qui est fort, qui est bon, même pour les gens détachés. Mais les gens ne veulent pas trop obéir au curé. Et donc, il y a une répartition genrée des rôles. La femme gère la proximité avec l'Église catholique et l'homme fait l'esprit fort, la dette de la raison, il gère la distance. Bon. Mais les deux sont dans une relation proximité-distance. Bon. Et la gauche a gagné parce que, justement, elle a réussi à montrer aux gens qu'ils pourraient continuer à bénéficier de ce qu'on appelait les secours de la religion et ils ne seraient pas sous la coupe des curés. Donc, ils pourraient avoir cette proximité-distance.
Comment se sont comportées les autres religions, les juifs et les protestants? On n'en parle pas beaucoup, mais
non, non,
ça vaut le coup d'en dire un mot.
Oui. Alors, effectivement, les juifs et les protestants, ils ont été loyalistes, c'est-à-dire que les inventaires... Alors, ce qu'il faut dire à propos des juifs, c'est que dans l'opposition à la loi, il y a de l'antisémitisme. Quand l'agent qui fait l'inventaire est juif, il se fait castagner à tous les coups. Il y a cet aspect-là aussi qu'on a...
Oui, c'est une insulte qu'on retrouve souvent.
Il y a encore un fort antisémitisme. Et puis, justement, dans les fake news, il y a l'idée qu'on va confisquer les biens des établissements publics du culte pour rembourser les juifs qui auraient payé la République pour la campagne électorale, etc. etc. Il y a des arguments antisémites qui sont assez forts. Bon. Donc, les juifs ont profil bas, et dans cette histoire, les protestants sont un peu les garants des intérêts des minorités, protestants et juifs. Bon. Ils sont loyalistes. Alors, là, on dit qu'ils sont favorables à la loi. Là aussi, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce que, disons que le fait que l'Église catholique ne soit plus une Église officielle, évidemment, ça leur plaît. Mais en même temps, les pasteurs et les rabbins, ils ont beaucoup de gosses. Les femmes ne font pas de travail rémunéré à l'époque. Donc, le fait de perdre le traitement de l'État, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, ils sont en gros, favorable à la loi, mais moins enthousiaste qu'on l'a dit. Bon. Et puis surtout, il y en a qui ne sont pas contents que, justement, qu'on ne ferme pas les églises. Et ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un conseil presbytéral dans la Drôme qui dit, mais ça c'est Jean-Paul Augier qui l'a étudié, qui dit, vous aviez dit que vous fermeriez les églises s'il n'y avait pas d'association culturelle et aucune église est fermée. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites? Bon. Donc, les minorités, ça va dans le sens de ce que j'ai dit sur le fait que la loi de 1905 n'a pas créé d'habitus pluraliste. Hein. Ils s'estiment un peu... leur loyalisme n'est pas récompensé. Quoi. C'est un peu leur position. On est loyaliste, on est pour la République, etc. Mais elle ne se soucie pas trop de nous, et elle se focalise sur le catholicisme. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que Briand, des fois, est prudent dans ses concessions vis-à-vis de l'Église catholique, parce qu'il ne veut pas donner une prime à l'Église catholique rebelle, entre guillemets, face aux juifs et aux protestants loyalistes. Et paradoxalement, il y a un certain nombre de libres penseurs qui veulent aller plus vite et qui veulent tout de suite faire des concessions. Et Briand dit, attendez, il faut un peu attendre. Il faut d'abord rassurer les protestants et les juifs, voir qu'on ne les abandonne pas. Et après, d'accord, on fera des concessions envers les catholiques. Donc, vous voyez, c'est un jeu extrêmement délicat. C'est vraiment un jeu de dentelle, hein. C'est la construction de ce non-événement qui est le fait que les églises restent ouvertes alors que les catholiques refusent d'obéir aux lois, pas seulement à la loi de 1905, mais aux lois qui les concernent.
En revanche, en Algérie, elle n'est pas appliquée, non. Alors que les musulmans la réclament.
Oui. Alors, elle est pseudo-appliquée puisqu'il y a un décret, là c'est Dora donc, qui a analysé ça dans le livre, mais en fait, elle n'est pas appliquée et disons qu'en Algérie, c'est la politique combiste de surveillance de la religion, on paye mais on surveille, qui est appliquée. Et même, par exemple, au Sénégal, il y a 4 communes du Sénégal qui sont françaises depuis très très longtemps. Les gens sont citoyens, ils votent, mais on ne leur applique pas la loi de 1905. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit, où, attention, on ne peut pas donner la liberté de... parce qu'ils sont musulmans et ça serait dangereux de donner trop de liberté aux musulmans. Donc il y a cette... la République est laïque, mais l'Empire, lui, veut contrôler, veut surveiller la religion.
Alors pour clore cet entretien et aussi surtout pour vous donner la parole, une dernière question. On sait à quel, on connaît la charge polémique de l'interprétation de la loi 1905 et encore aujourd'hui, hein, et ça n'a jamais cessé en réalité. Comment pourriez-vous expliquer en quelques mots ce que c'est que la loi de 1905 ou quels éléments vous donneriez par exemple à un prof d'histoire qui devrait enseigner ça à ses élèves? Sans qu'il soit obligé, même s'il le devrait, de lire les trois tomes de 2000 pages.
Alors, bon, le problème, c'est difficile parce que, à la fois, bon, moi, quand je me suis plongé là-dedans, j'ai essayé de m'abstraire des querelles d'aujourd'hui. Et puis, en même temps, si on essaye d'avoir ce souci pédagogique, on est bien obligé de mettre les pieds dans les querelles d'aujourd'hui. Bon. Et il y a quand même un truc qui, à mon avis, va contre la loi de 1905, c'est le fait de vouloir l'interpréter d'abord à travers la loi de 2004. Bon, alors on peut avoir toutes les opinions qu'on veut sur la loi de 2004, hein, mais en tout cas, on ne peut pas justifier la loi de 2004 par la loi de 1905. Ça oblige à tordre complètement la loi de 1905 et à faire dire à Briand le contraire de ce qu'il a dit. Et ça, moi, je l'ai relevé quand même à plusieurs reprises. Bon. Et puis, si on veut aussi parler correctement de la loi de 1905, il ne faut pas faire la chasse à une pseudo-influence anglo-saxonne. Parce qu'au cœur de la loi de 1905, là, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a l'article 4, et l'article 4, il est issu des États-Unis et de l'Écosse. Bon, et c'est l'article 4 qui a quand même permis, qui est la clé de voûte, si vous voulez, de la conciliation. Bon. Donc, il faut arrêter d'être dans une optique laïcité exception française. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que le terme de laïcité ne figure pas dans la loi de 1905, mais il figure dans le rapport de Briand, dans le chapitre sur les législations étrangères. Autrement dit, quand Briand parle de la laïcité, il parle du Canada, des États-Unis, du Mexique, du Brésil, de Cuba, etc., etc. Il dit, voilà, eux, ils sont laïcs et nous, il faut qu'on le devienne. Bon. Donc, il y a une vue universaliste qui est présente. Donc, il faut donc arrêter de vouloir l'instrumentaliser et il faut essayer de faire ses fondamentaux. Et ses fondamentaux, bon, c'est quoi? C'est les deux premiers articles, c'est-à-dire d'abord la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, c'est l'article premier. L'article 2 ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Mais ce qui est important, sauf les aumôneries, ce qui montre bien, pour pouvoir permettre le libre exercice des cultes, ce qui montre bien que l'article 1 est supérieur à l'article 2. Et ça, voilà, ce que je dirais à un prof, c'est surtout ne pas réduire la loi de 1905 à l'article 2, parce que c'est la mésinterpréter. Et donc de ne pas oublier l'article 4 qui instaure une liberté collective, qui dit que la liberté, enfin, que si vous voulez, que la liberté collective est indispensable pour que la liberté individuelle soit complète. C'est pas une vue communautariste, mais c'est de dire que pour que l'individu soit libre, il faut intégrer une liberté collective parce que l'individu est en relation avec autrui. Bon. Et c'est peut-être le point final, mais c'est aussi peut-être pour ça que finalement il y a une réticence, à mon avis, d'un certain nombre d'historiens à étudier la loi de 1905. Moi, je suis frappé que quelqu'un comme Claude Nicollet, par exemple, qui fait des bouquins très intéressants sur la République, mais chaque fois qu'il aurait à parler de la loi de 1905, il s'arrête, il n'en parle pas. Bon. Ou pareil. Pourquoi? Parce que ça va contre le récit républicain du face-à-face État-individu. Ça montre que ces récits républicains, c'est un imaginaire. Bon. Et attention de ne pas célébrer la loi en la méconnaissant. Et c'est un peu ce qui se passe, ce qui risque de se passer en tout cas avec cette journée du 9 décembre, qui est la journée de la laïcité. On célèbre la loi, mais on ne veut surtout pas la connaître, parce que en la méconnaissant, on peut projeter son imaginaire. Et on peut justement tordre la loi comme un étire. Bon. Donc, il faut un peu respecter les fondamentaux de la loi, ne pas tronquer les citations de Briand, leur faire dire le contraire de ce qu'elles ont dit, et justement faire comme Briand lui-même, trier entre les fondamentaux et puis le reste.
Merci beaucoup, Jean. La parole est à la salle. Nous avons une demi-heure d'échange.
Bonsoir, merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé passionnant. Est-ce que les trois tomes correspondent à ce qu'on pourrait appeler une micro-histoire de la loi 1905? Est-ce que Jean, tu te reconnaîtrais dans cette idée de micro-histoire, compte tenu de l'aspect dentelle, justement restitution de tous les paradoxes, des couleurs du réel, là, dans toutes ces nuances, y compris ambivalentes et contradictoires?
Ben, disons que c'est un peu plus ambitieux. Je dirais que la micro-histoire permet, pour moi, une vision plus exacte de la grande histoire, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que sans micro-histoire, on loupe l'emboîtement des pièces du puzzle. Bon, je vais prendre un exemple. Un passage justement qui peut paraître anecdotique, micro-histoire, etc., et que j'ai un peu hésité à mettre dans le livre, et finalement je l'ai mis parce qu'il m'a semblé plus important qu'il n'y paraît. Au moment où justement c'est tendu, là, en fin décembre 1906, Briand dépose un projet de loi pour permettre à l'Église catholique de conserver ses églises. Bon. Et les radicaux socialistes ne sont pas contents et ils demandent à Clémenceau d'ajourner la discussion pour qu'il puisse présenter des amendements qui vont durcir le texte. Bon. Et c'est dans les couloirs de la Chambre et Clémenceau se met en colère, il tonne, je ne me laisserai pas foutre des coups de pied au derrière, etc., etc. Il tonne tellement fort que la séance doit être suspendu parce qu'on ne s'entend plus. Bon. Est-ce que ce fait-là, cette colère de Clémenceau, que les journaux relèvent, mérite que l'historien s'en empare? Oui, parce que justement, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas focaliser uniquement sur Briand. S'il n'y avait pas Clémenceau derrière, avec sa forte personnalité, son tempérament autoritaire, etc., ça n'aurait pas marché. Bon. Et donc, dans la mesure où enfin, je dirais, il faut trier dans la micro-histoire entre ce qui est significatif et ce qui n'est pas. Ce qui permet d'emboîter les pièces du puzzle et ce qui serait. Il faut pas évidemment qu'il y ait d'autres pièces que les pièces du puzzle. Bon. Il y a des fois où la micro-histoire, ça serait d'autres pièces que les pièces du puzzle. Et puis il y a d'autres fois où, au contraire, la micro-histoire est indispensable pour que les pièces du puzzle s'emboîtent, pour qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, etc. Donc voilà un petit peu ce que je dirais. Mais justement, j'assume de faire de l'histoire à ras de terre parce que c'est aussi une multiplicité d'acteurs. Bon, le Monde là, a fait une bonne critique, mais ils ont dit il y a beaucoup de gens qui sont cités. Et oui, mais parce que c'est une multiplicité d'interactions qui a donné ce résultat. Et que, si vous voulez, si, bon, pour prendre un exemple, si des libres penseurs n'avaient pas joué le jeu et étaient allés faire du bruit dans les églises, ça dérapait. Ça dérapait. Donc, les petits maires locaux libres penseurs on jouait le jeu. Le curé occupait l'église sans titre juridique. Donc on pouvait très bien aller faire du bazar. Et en 1903, sous Combes, on avait fait du bazar dans les églises. Et là, en 1906-1907, les seuls qui font du bazar, c'est les catholiques, justement, dans une église catholique dissidente. Mais aucun libre penseur ne fait du bazar dans une église. Donc voilà, voilà un non-événement très important. Très important. Donc voilà, il faut aller à ras de terre.
Ça fait rêver, hein, cette intelligence des gauches.
Ouais. Ah oui, mais justement, alors moi je suis un peu contre un historien bon, qui a apporté des apports, mais qui s'appelle Jean-Paul Scott, et qui lui est très très brillantiste. Et alors dès que les gens ne sont pas d'accord avec Briand, c'est des anticléricaux sectaires, c'est des gens pas recommandables, etc. Non, moi ce que je trouve formidable, c'est que justement, des gens ont fait preuve de l'éthique de responsabilité et ont su dompter leurs convictions propres. Et la réussite de cette affaire, c'est parce que justement, les gens ont pu prendre sur eux. Et quelqu'un comme Maurice Allard, par exemple, effectivement, Maurice Allard, c'est un laïc antireligieux, mais n'empêche qu'il a quand même voté ces quatre lois. Il a quand même, au bout du compte, joué le jeu. Et donc, il ne faut pas le traiter de sectaire, etc., c'est quand même louper quelque chose.
Oui, j'ai une petite curiosité et vous allez m'instruire. On a quand même eu en France un philosophe qui, 60 ans avant la loi de 1905, avait complètement théorisé la séparation de l'Église et de l'État et qui, par disciple interposé, a obtenu que la séparation de l'Église et de l'État se produise au Brésil 15 ans avant la France. Est-ce que je rêve ou est-ce que moi je pense qu'on n'a pas du tout fait allusion à son œuvre, mais est-ce que c'est le cas? Ah oui, c'est Auguste Comte, bien sûr.
Oui, bien sûr, oui. Ben, si vous voulez, on ne peut pas dire que les acteurs principaux de la loi soient des partisans d'Auguste Comte. Mais ce qui est vrai, c'est que justement, dans les exemples étrangers que Briand cite, il y a le Brésil. Et le Brésil est un exemple intéressant parce que justement, ça a été au moment même de la séparation très conflictuelle avec l'Église catholique, mais assez vite, l'Église catholique a accepté la séparation brésilienne. Et donc, il y a justement, quand je dis qu'il y a un conflit feutré au sein du catholicisme, que théoriquement les gens obéissent au pape, mais qu'en fait il y a des avis divergents, eh bien il y a des gens qui espèrent une évolution à la brésilienne. Et donc qui pensent que les choses peuvent se calmer et l'Église catholique peut accepter in fine la séparation.
Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur la place de l'éducation, de l'école au moment de la séparation de l'Église et de l'État?
Oui, bien sûr. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que y a un débat sur l'école. Est-ce qu'il faut durcir la loi de Jules Ferry de 1882? Et sous Combes, il y avait tout un mot d'ordre qui s'appelait laïciser la laïque. La laïque, c'était l'école laïque. Hein, laïciser la laïque. Justement, Jules Ferry a été trop accommodant. Il faut maintenant faire que les choses soient plus radicales. Bon. Et notamment, transformer. Alors, la loi de 82 disait que le catéchisme devait se faire en dehors des heures de classe. Bon. Et certains veulent qu'on mette dans la loi en dehors des jours de classe. Surtout que l'école vacque le jeudi et qu'après tout, donc, c'est encore conciliant puisqu'il y a un jour consacré au catéchisme. Bon. Et c'est refusé. On reste dans un article de la loi dit nommément Voilà, c'est en dehors des heures de classe, mais ce n'est pas en dehors des jours de classe. Bon. Donc on en reste à Ferry. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, il y a des gens qui profitent, disons, du census pour essayer de remettre le crucifix dans des écoles. Et il y a des tensions parce qu'il y a des gens qui vont remettre le crucifix dans les écoles. Alors, il n'est pas d'ailleurs enlevé déjà partout. Hein. Il y a encore des écoles où il y a des crucifix. Parce que Buisson a dit qu'on enlèverait le crucifix quand la majorité des gens comprendraient que le crucifix, sa place est à l'église et pas à l'école. Et donc, on a enlevé les crucifix très progressivement, et il en reste encore en 1905-1906, mais il y a des tentatives d'en remettre. Bon. Il y a aussi un problème, parce qu'il y a quelques écoles rurales qui, pour ne pas mélanger les gamins qui ont 6 ans et les gamins qui ont 11 ans, font des écoles mixtes. Et ça, alors, c'est l'abomination de la désolation. Les évêques disent que les parents qui acceptent que leurs enfants de 6 ou 7 ans soient mélangés, garçons et filles, ils n'aiment pas leurs enfants. Voilà. Et puis, il y a le fait qu'en 1909, l'école va servir de conflit substitutif, si vous voulez. N'ayant pas pu en découdre au niveau de la séparation et du conflit frontal, Église catholique, État, eh bien, on essaye de remettre le couvert au niveau de l'école en profitant du fait qu'il y a des instituteurs qui, effectivement, ont des discours. Il y en a un qui est poursuivi pour avoir tenu des propos injurieux envers l'Église catholique. Bon, mais de cas d'espèce, on fait comme si c'était un peu une tendance générale. Et on essaye de faire dériver le conflit là-dessus. Et Aristide Briand va calmer le jeu en 1913 en associant plus les parents d'élèves, disons, à la vie de l'école laïque. Mais effectivement, l'école a servi de conflit substitutif. Et puis, alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les écoles congréganistes ont été fermées par Combes, mais beaucoup se réouvrent comme écoles libres et se modernisent et jouent beaucoup la carte des parents d'élèves. Si bien que l'école libre telle qu'on l'a connue après, on peut dire paradoxalement que c'est un peu Combes qui l'a créée en enlevant les écoles congréganistes qui étaient vieillottes, qui ne faisaient pas l'unanimité loin de là au sein même du catholicisme, etc. Donc Combes, par ses mesures anticongréganistes, a finalement donné un coup de jeune aux écoles libres, et ça a été la politique combiste a été tout à fait contre-productif du point de vue laïque, disons.
Francis de Pressensé, est-ce qu'il n'a pas joué un rôle prémonitoire en quelque sorte, parce que son premier projet de 1903 a fait long feu, hein, et c'est ensuite que ça réapparaissent avec d'autres acteurs et une forme nouvelle, le projet de loi de séparation. Mais est-ce qu'il n'a pas été oublié, mais dans un rôle important que ça a joué dans le fait de montrer une certaine direction et peut-être dans le rôle qu'il a lui-même joué comme président de la Ligue des droits de l'homme jusqu'au début de 1914, pendant toute cette période, de manière un peu parallèle au rôle que Jaurès jouait vis-à-vis du mouvement socialiste de l'époque, c'est-à-dire un rôle d'ouverture, d'écoute et de rassemblement de toutes les voix qui étaient nombreuses et qui étaient discordantes aussi bien dans le monde associatif laïque que dans le monde socialiste. Est-ce que ce n'est pas une personnalité qui, en second rideau, si je puis dire, a joué un rôle, notamment par l'intermédiaire de cette association qui était la Ligue des droits de l'homme, qui n'était pas négligeable à ce moment-là.
Alors, oui. Bon, on ne peut pas parler de tout, hein, mais effectivement, le cap de Francis de Pressensé est très intéressant parce que aussi, c'est typique aussi de l'évolution d'un certain nombre de gens à gauche, puisque en 1903, il est sur des positions, son projet de loi est relativement radical, c'est-à-dire que il s'inspire quand même pas mal de la première séparation de l'Église et de l'État, de l'Église catholique et de l'État en 1795. Bon, alors un peu plus libéral que cette séparation, mais bon. Et en fait, mais c'est le premier projet consistant, disons. C'est le premier projet consistant. Les autres projets avant, c'est un peu des déclarations de principe. Et Briand, en fait, va faire un avant-projet en corrigeant le projet de Francis de Pressensé par un autre projet qui provient de Gênes de Réveillot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Francis de Pressensé est agnostique, mais fils de pasteur, et Gênes de Réveillot est lui un protestant évangélique convaincu, en même temps que franc-maçon et radical socialiste, ce qui s'harmonise très bien à l'époque. Bon. Et pourquoi je dis que c'est un exemple d'évolution? Parce que c'est Pressensé qui va trouver l'article 4, la formule de l'article 4. Et justement, étant fils de pasteur, il va la trouver dans des pays protestants, c'est-à-dire des États américains, des États fédérés américains, et une affaire qui a concerné l'Église libre d'Écosse. Bon. Donc c'est lui qui, in fine, trouve... techniquement, disons, la solution conciliatrice. Alors même que son projet de départ est un projet un peu dur et que les laïcs intransigeants disaient on est pour le projet Pressensé contre le projet d'Aristide Briand. Bon. Mais finalement, et alors, évidemment, Aristide Briand joue très finement puisque... Et il introduit Francis de Pressensé, il dit que Francis de Pressensé a des remarques à faire, etc. Francis de Pressensé fait des remarques. Et puis, in fine, au moment de partir, il dit « Ah oui, j'oubliais quelque chose », et paf, il balance l'article 4. Alors là, tout le monde est un peu stupéfait, mais il est tard, la commission va... Et donc, on dit « Oui, pourquoi pas, il faudra voir ça, etc. » Et la fois suivante, Briand fait comme si c'était adopté. Bon. Et donc c'est lui qui trouve bon. Et puis après effectivement il a un rôle apaisant notamment au niveau de Madagascar où ça se passe mal et le fait qu'il soit ce qui est très intéressant c'est que c'est une figure presque allégale de Jaurès à l'époque. Il est complètement oublié maintenant mais à l'époque c'est le grand Dreyfusard. Effectivement, président de la Ligue des droits de l'homme, il a une stature. Et là aussi, c'est extraordinaire parce qu'il a été battu, il a été candidat à être dans la commission, et s'il avait été élu à la commission, il aurait été le rapporteur de la commission, ça n'aurait pas été Briand. Il a été battu par le fait que. Certains combistes n'ont pas voté pour lui. Et paradoxalement, donc, là aussi, on se dit, s'il avait été membre de la commission et rapporteur, ben, il aurait fait travailler les gens sur son projet. Et donc, l'histoire aurait été différente. Là encore, on retrouve l'histoire avec Dessy. Et alors, pourquoi les combistes n'ont pas voté pour Pressensé? C'est parce qu'en fait, les combistes ne voulaient pas de la séparation. Ils la prenaient dans leur discours, mais ils n'en voulaient pas. Et donc, voilà, ils font battre Pressensé, ils font battre... si bien que la commission est équilibrée entre concordataires et séparatistes, parce que, justement, un certain nombre de gens, là aussi, ont trouvé mieux à faire qu'à les voter. Bon. Et du coup, le texte qui est établi par la commission est un texte assez transpartisan, puisque justement, Briand joue sur le fait, et Buisson, parce que Buisson joue un grand rôle à cette époque-là, Buisson et Briand jouent sur le fait qu'il y a à peu près autant de concordataires que de séparatistes, et donc il dit à son aile gauche, ben, si vous voulez que la commission puisse faire un projet de séparation, il faut faire droit aux critiques que font les concordataires, parce que sinon, il n'y aura jamais de projet de séparation. Et c'est là où Allard, etc., dit « Ok, et ils acceptent, ils avalent plein de couleuvres, disons, ils acceptent que le projet ne soit pas du tout ce qu'ils voulaient au départ.
Oui, tu as dit vouloir t'intéresser désormais à la guerre russo-japonaise. Tu as évoqué ça rapidement tout à l'heure. Quels objectifs te donnes-tu dans cette étude-là par rapport ou non d'ailleurs à la question de la laïcité?
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour une partie de la gauche, le Japon est un modèle de laïcité face à la Russie des tsars, qui est le cléricalisme des prêtres orthodoxes, etc. etc. Il y a une partie de la gauche qui est japonophile, alors même que la politique officielle de la France, c'est l'alliance franco-russe. Bon. Surtout, le problème, c'est que, justement, comme la France est l'alliée de la Russie, elle aide beaucoup, théoriquement elle est neutre, mais elle aide beaucoup la Russie en sous-main. Par exemple, tout le trajet que la flotte de la Baltique va faire pour aller dans le Pacifique est concocté entre Delcassé, le ministre des Affaires étrangères français, et l'ambassadeur russe à Paris. Pourquoi ? Parce que la flotte russe va aller se ravitailler dans tous les ports des colonies françaises. Afrique du Nord, Afrique noire, Madagascar, Indochine, etc. Et donc, il y a des manifestations à Tokyo contre la France, etc. Et Clémenceau, Jaurès, etc. disent « Mais attendez, vous êtes en train de nous entraîner dans une guerre, là. » Et à plusieurs moments, on craint que la France soit entraînée dans la guerre. Bon. Et surtout, plus fondamentalement encore, en 1903, comme je dis, l'horizon est entièrement à la paix, et on espère que ce qu'on appelle la paix par le droit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler les conflits internationaux par le tribunal de La Haye. Tribunal de La Haye, justement, dont Nicolas II, le tsar des Russies, est l'initiateur. Bon. Et quand il y a la guerre russo-japonaise, ben c'est le ciel qui tombe sur la tête des gens qui, justement, avaient cet espoir. Parce qu'il y a les gaz asphyxiants, il y a les tranchées, il y a des massacres. Il y a le fait aussi qu'avec les progrès de la médecine, il y a des blessés irrémédiables. Et ça frappe beaucoup les gens, parce qu'on avait l'habitude, soit les gens mouraient, soit ils en réchappaient. Mais là, on voit des jeunes gens qui vont être handicapés à vie. Et ça, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Bon. Autrement dit, comme la Russie est embourbée, le front est de l'Allemagne est dégagé, et l'Allemagne redevient dangereuse. Autrement dit, c'est vraiment... On entre, à mon avis, on entre dans le XXe siècle. On a dit qu'on entrait dans le XXe siècle avec la guerre 14-18. Pour moi, ce n'est pas vrai. On entre dans le XXe siècle avec la guerre russo-japonaise. En plus, donc c'est la première fois qu'une armée jaune, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on parle à l'époque, donc une armée non blanche gagne contre une armée blanche. Et c'est un coup de... Alors Clémenceau dit c'est un formidable halte-là. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. Et c'est un coup de tonnerre qui se répercute en Turquie, qui se répercute en Inde, qui se répercute dans plein de pays non occidentaux, justement parce que l'Occident qui apparaissait invincible, eh bien, les Japonais montrent que non, il n'est pas invincible. Il n'est pas invincible. Et donc, c'est vraiment un tournant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été complètement... Maintenant, elle est masquée par la guerre 14-18, cette guerre russo-japonaise. Mais en fait, oui, bienvenue dans le XXe siècle. Bienvenue dans le XXe siècle. Et la grande phrase de 1903 que vous trouvez partout, c'est le progrès moral. La civilisation est dans le progrès moral. La marche en avant de l'humanité. Ben, en 1904, ça devient beaucoup plus difficile. Ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment un tournant. Et ça montre aussi que donc, ce n'est plus la Méditerranée qui est, ou même l'océan Atlantique qui est la mer civilisationnelle, c'est le Pacifique. Parce que c'est les Américains qui négocient la paix entre la Russie et le Japon. Donc voilà, c'est maintenant la mer, l'océan important, c'est l'océan Pacifique. Et on est décentré par rapport, évidemment, à la mer Méditerranée, à l'océan Atlantique, aux deux mers qui bordent la France métropolitaine.
Donc ça sera le prochain ouvrage de Jean. Et je vous propose de clore cette séance pour éventuellement vous diriger vers la librairie éphémère.
Donc je voudrais encore remercier Dora, qui a fait un travail formidable avec moi. Et puis la MSH, vraiment les éditions de la MSH, heureusement que des éditions comme ça existent, parce que sinon, effectivement, de tels livres sont pas rentables dans le marché normal. Bon. Donc voilà, heureusement qu'on a encore ces îlots où le savoir peut résister, disons, à l'emprise du marché.